VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 30 novembre 2018, bonjour. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, accusation du candidat à la présidentielle Martin Fayoulou contre le pouvoir portant sur son avion de campagne.
Sommet à N'Djamena entre le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun sur la lutte contre le terrorisme.
Plusieurs ONG de défense des droits de l'homme dénoncent les restrictions de la liberté d'expression au Cameroun.
En Guinée, les forces de l'ordre dispersent une manifestation de l'opposition à Conakry.
Le président américain Donald Trump annule à la dernière minute la rencontre prévue avec son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet du G20 à Buenos Aires.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, le candidat commun de l'opposition, Martin Fayoulou, accuse le gouvernement de refuser l'atterrissage à son avion de campagne. Selon son équipe, la demande qu'il a formulée en bonne et due forme auprès de l'aviation civile congolaise a été arbitrairement bloquée. Démenti du vice-premier ministre en charge des transports. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Je n'ai sur ma table aucune demande du candidat Martin Fayoulou sollicitant l'atterrissage de son avion. Un appareil qui remplit les normes selon la loi congolaise ne peut pas être refusé d'atterrir sur le sol congolais, a affirmé à Top Congo FM le ministre des Transports, José Makila Soumanda. Cette réaction fait suite aux allégations de la coalition Lamuka qui porte la candidature à la présidentielle de Martin Fayoulou. Olivier Kamitatou, l'un des directeurs de campagne adjoint du candidat commun de l'opposition et proche de Moïse Katumbi, a en effet affirmé sur Twitter, je cite, en dépit d'une demande régulière adressée en bonne et due forme, l'avion de Lamuka est arbitrairement bloqué pour empêcher à Martin Fayoulou d'aller parler aux Congolais. Fin de citation. Le ministre congolais des Transports a rappelé à Lamuka qu'en cas de pareille demande, il faut tout d'abord que les techniciens de l'autorisation de l'aviation civile se rendent dans le pays d'origine de l'appareil pour faire l'inspection de l'avion et s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil. Cette polémique suscite de nombreux commentaires alors que le candidat Martin Fayoulou, qui présente ce vendredi à Kinshasa, le programme commun de la coalition Lamuka annonce que la première phase de sa campagne va débuter le dimanche 2 décembre courant par un déplacement à Beni et à Butembo, deux villes du Nord Kivu à l'est de la RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
République centrafricaine, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a averti ce vendredi que 2 enfants sur 3 dans ce pays ont besoin d'assistance humanitaire. Et l'UNICEF d'ajouter que des milliers d'entre eux sont piégés au sein de groupes armés ou victimes de violences sexuelles. Cette crise a lieu dans l'un des pays les plus pauvres et les moins avancés du monde et l'un des plus dangereux pour le personnel humanitaire, a déclaré la représentante de l'UNICEF en Centrafrique, Christine Muhigana, dans un communiqué. La situation des enfants est désespérée, a-t-elle encore prévenu.
À l'issue d'une réunion à N'Djamena, les présidents du Nigeria, du Niger et du Tchad, ainsi que le premier ministre du Cameroun, ont demandé le soutien de la communauté internationale dans la lutte contre Boko Haram. Le point avec Bagassi Koura.
Le président Mohamedou Buhari du Nigeria, Mahamadou Issoufou du Niger, Idriss Déby du Tchad et le premier ministre camerounais Philemon Yang sollicitent le soutien de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilisation de la région du lac Tchad. À l'issue de leur rencontre à huis clos à N'Djamena, les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde préoccupation face à la recrudescence des attaques et affirment vouloir changer d'approche dans la lutte contre Boko Haram. Ils promettent de multiplier ce type de rencontres et se sont entretenus avec de hauts gradés de la force multinationale mixte qui surveille la région du lac Tchad avec l'aide des comités de vigilance composés de citoyens locaux. Hier, un officier nigérien a déclaré qu'une base militaire proche du lac Tchad a été attaquée mardi par Boko Haram et que les soldats mis en déroute ont perdu 3 hommes. À la mi-novembre, la branche qui fait allégeance au groupe État islamique a revendiqué la mort de 118 soldats au Nigeria. Au Cameroun, au moins 29 personnes ont été blessées mercredi dans un attentat suicide à Amchide, dans l'extrême nord, près de la frontière nigériane.
Parlant du Cameroun, plusieurs ONG de défense des droits de l'homme ont dénoncé hier les restrictions de la liberté d'expression, un signal inquiétant selon elles du nouveau mandat du président Paul Biya réélu en octobre. Nanit Talani.
Huit organisations dont Amnesty International et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme notent dans un communiqué conjoint qu'au moins 6 journalistes ont été arbitrairement arrêtés ces dernières semaines. Ils sont accusés d'avoir publié des informations critiques à l'endroit des autorités camerounaises sur leur gestion de la crise anglophone. En outre, les ONG signataires réclament l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale sur la disparition forcée depuis début août de Franklin Moua, un défenseur camerounais des droits de l'homme. Au moment de sa disparition, M. Moua était en mission à Koumba, dans la région anglophone du Sud-Ouest, pour documenter des cas de violation des droits humains. Les ONG dénoncent également une instrumentalisation de la loi antiterroriste contre des voix considérées comme dissidentes. Elles demandent sa révision afin de la rendre conforme au droit international. Plus de 700 personnes, militaires et civils confondus, ont déjà perdu la vie dans le conflit dans les zones anglophones et plus de 437 000 personnes ont fui leur domicile.
En Guinée, une manifestation de l'opposition a été dispersée par les forces de l'ordre à Conakry. Plusieurs centaines d'opposants guinéens voulaient manifester une fois encore contre les conditions d'installation des conseils municipaux. Le point avec Raissa Girondin.
Les jeunes manifestants, estimés à quelques centaines par des journalistes, un millier pour les organisateurs, entendaient défiler du grand stade de Conakry au Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale. Malgré l'absence du chef de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo, ils étaient déterminés à braver l'interdiction de manifester. Les forces de l'ordre ont alors usé de gaz lacrymogène et érigé des barricades avec les pick-up de la gendarmerie. 4 manifestants ont été légèrement blessés. Après plusieurs mois de contestation des résultats des élections locales du 4 février, un accord avait été conclu en août entre le pouvoir et l'opposition sur la répartition des exécutifs communaux. Début octobre, l'opposition a repris ses journées villes mortes et ses manifestations. Elle accuse le gouvernement de violer cet accord et de corrompre ses élus pour s'assurer le contrôle d'une large majorité des communes du pays.
Au Sénégal, l'opposition a pu tenir, elle, une marche qui a réuni hier à Dakar plusieurs milliers de personnes réclamant une élection présidentielle transparente à moins de 3 mois du premier tour que le président Macky Sall espère remporter. Le défilé encadré par la police était organisé par le Front de Résistance Nationale, la coalition de l'opposition. Ses partisans ont réclamé la validation par la justice des candidatures de 2 des principaux opposants, l'ex-ministre Karim Wade et l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ouverture ce vendredi à Buenos Aires du sommet du G20, l'organisation regroupant les 20 pays les plus riches du monde. Une rencontre qui se tient dans un contexte de tensions politiques et commerciales, alors que l'organisation est le symbole même du libéralisme économique. Abdourahmane Dia.
Le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping vont se rencontrer en marge du sommet de 2 jours dans la capitale argentine. Au menu de leur discussion, les tensions commerciales entre Washington et Pékin, quelques jours après que l'administration américaine a annoncé qu'elle allait mettre à exécution sa menace d'ajouter de nouvelles taxes de 200 milliards de dollars sur des produits chinois. Les deux parties espèrent un dégel dans le conflit commercial qui les oppose depuis plusieurs mois, avec des hausses de tarifs de part et d'autre. Les États-Unis ont aussi imposé des taxes additionnelles sur l'acier et l'aluminium en provenance d'Europe. Cette question devrait donc être abordée, mais le président Trump a déjà dénoncé à plusieurs reprises les pratiques commerciales des autres pays jugées défavorables aux États-Unis. Sur le plan diplomatique, l'Ukraine sera au centre des préoccupations. Le président américain Donald Trump a finalement annulé sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, citant la saisie de navires ukrainiens par la Russie.
Selon des journalistes voyageant avec le président Trump, ce dernier est de mauvaise humeur et distrait après que son ancien avocat, Michael Cohen, a plaidé coupable hier à New York et admis avoir menti au Congrès sur ses contacts avec des Russes au sujet d'un projet immobilier de M. Trump en Russie. Cet ex-homme de confiance du président américain a été inculpé par le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidence de 2016. Cohen risque déjà l'emprisonnement pour fraude bancaire.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Nanik Talani.
À une semaine d'un sommet à Vienne de l'Organisation des pays producteurs de pétrole et de ses partenaires, les analystes sont sceptiques quant à une importante baisse de la production du pétrole. L'or noir a perdu environ 35% de sa valeur il y a presque deux mois, pénalisé par des craintes d'un surplus d'offres et par des doutes sur la capacité de l'OPEP et de ses partenaires à s'accorder sur une réduction de leur production. La Tunisie bénéficiera d'un prêt de 500 millions de dollars de la part de l'Arabie Saoudite, indique l'agence de presse Bloomberg. Cet argent, dont le taux d'intérêt n'a pas encore été fixé, devrait permettre de financer le difficile redressement de l'économie tunisienne, plombée par un taux de chômage inquiétant et une inflation galopante. Terminons avec la Côte d'Ivoire qui accorde à tout opérateur de la filière EVIA une autorisation exceptionnelle d'exportation de fonds de tasse d'EVIA entre le 15 mars et le 31 décembre 2018. Afin d'absorber toute la production locale, le gouvernement ivoirien appuiera aussi les initiatives des opérateurs visant à accroître la capacité nationale d'usinage. Cette aide interviendra dans le cadre des conventions spécifiques d'investissement avec l'État, prenant en compte l'octroi de crédit d'impôt sur une période maximale de 5 ans.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. La CAF va examiner aujourd'hui la question de la CAN 2019 au Cameroun.
Oui, le comité exécutif de la CAF va se réunir à Accra, en marge de la CAN féminine. Un compte-rendu des deux dernières visites d'inspection sera exposé au comité exécutif de l'organisation africaine au cours de la réunion. Les inspecteurs de la CAF ont effectué récemment une inspection sécuritaire et une autre sur les infrastructures, stades et hébergements au pays de Samuel Eto'o. Après la réunion des dirigeants, une décision sera rendue sur le maintien ou non de la CAN 2019 au Cameroun, d'après un responsable de la CAF qui n'a pas précisé quand exactement cette décision serait rendue. Il sera aussi question du cas de la Sierra Leone, suspendue par la FIFA et qui a manqué les trois dernières journées des éliminatoires de la CAN 2019 et du format des éliminatoires des CAN 2021 et 2023, ainsi que de ceux de la Coupe du Monde 2022.
Le Sénégal a détrôné la Tunisie à la tête du classement FIFA Zone Afrique.
Les Lions de la Teranga ont dépassé les Aigles de Carthage, battus à deux reprises ce mois de novembre. Grâce à ces deux succès, le Maroc s'est hissé quant à lui sur le podium continental. La suite de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019 et quelques rencontres amicales ont occasionné ce changement de leader au niveau africain. Peu de changements en revanche au plan mondial. La Belgique a conservé son avance en tête devant la France.
Un long dimanche de derby en Première Ligue.
Et oui, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Fulham et Liverpool, Everton. La 14e journée du championnat d'Angleterre est très attendue avec trois passionnants derby au programme. En cas de succès, les Gunners, 5e avec 27 points, peuvent rejoindre les Spurs, 3e avec 30 points au classement. Liverpool, 2e, 33 points, essayera de suivre la cadence infernale des Citizens contre Everton. Chelsea jouera de son côté pour retrouver le podium duquel il est tombé à la journée précédente après sa défaite 3-1 contre Tottenham. Bien avant samedi, Manchester United se déplacera à Southampton à la quête d'un premier succès en championnat en plus de 3 semaines.
Le stade du Real Madrid est envisagé pour accueillir la finale de la Copa Libertadores.
Le stade Santiago Bernabéu, 81 000 places, est envisagé pour accueillir la finale retour entre River Plate et Boca Juniors. Ce match a été reporté à la suite d'incidents violents samedi dernier à Buenos Aires. Le quotidien espagnol El País a écrit que la Fédération espagnole et le Real Madrid ont chacun donné leur feu vert à l'organisation de cette rencontre. Le club merengue joue à l'extérieur en Liga le dimanche 9 décembre et son stade est par conséquent disponible. La finale allait le 10 novembre s'était soldé par un nul 2-2. Basketball, pour finir, avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Toronto a enchaîné une 7e victoire d'affilée en venant à bout sur son parquet de Golden State, 131 à 128, après prolongation dans un match à suspense. Meilleure équipe du début de saison, les Raptors ont fait la course en tête pendant la quasi-totalité du match, comptant jusqu'à 17 points d'avance dans le troisième quart temps, 79-62, sur les doubles champions NBA en titre, toujours privés de Stephen Curry et de Draymond Green.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydou Dia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la campagne pour les élections du 23 décembre a démarré il y a une semaine. Elle n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais en territoire de Beni, dans le nord Kivu, l'épidémie de fièvre Ebola a fait près de 242 morts. Les attaques et enlèvements des rebelles ADF ont fait plus de victimes. Comment se déroule la campagne à Beni? Idriss Fall a joint sur place notre confrère Nikèze Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses.
Ces deux préoccupations qui se sont invitées à la campagne sont toujours là, mais il faut dire que la campagne a démarré effectivement, au moins au niveau des grandes agglomérations. On assiste à des caravanes motorisées, des véhicules avec musique et des chansons qui résonnent pour tel ou tel candidat. Le RCD-KML a ouvert sa matinée politique pour annoncer sa campagne il y a deux jours. Il y a des affiches partout sur des murs. Disons que la campagne a démarré en attendant ces deux inconnus que vous avez cités, Ebola et l'insécurité des ADF.
Comment est-ce qu'elle se déroule? Est-ce qu'il y a une forte mobilisation? Parce que Ebola, quand même, ne va pas toujours avec des rassemblements.
Concernant Ebola, le grand principe est qu'on ne se salue pas les mains, qu'on ne se touche pas. Et les gens sont dans la rue, ils s'y habituent. Donc la campagne se fait sans que les gens s'embrassent, sans que les gens se touchent. Il y a des caravanes, comme je l'ai dit, de la musique, des affiches. Mais il faut dire que la campagne n'a pas encore pris sa vitesse de croisière. Peut-être dans les jours qui viennent, ça sera plus déterminant. Parce que vous savez, chez nous, on se tourne, on attend toujours les derniers jours. On observe en même temps les consignes sur la prévention pour Ebola. Au même moment aussi, il y a la campagne. Mais les gens ne s'embrassent pas, ne se saluent pas par la main. Il y a une salutation gestuelle ici qui se passe, on se donne du coup.
Est-ce que les candidats à l'élection présidentielle comme Martin Fayoulou ou Félix Tshisekedi ou Emmanuel Ramazani Shadary, est-ce qu'ils ont prévu de venir à Beni?
Sur le papier, c'est prévu, ils viendront à Beni. Mais par exemple, pour Shadary, il a des équipes, pour tout le monde, ils ont des équipes, des campagnes qu'ils ont un peu, si vous acceptez le terme, saucissonnées. Et pour Emmanuel Shadary, dans chaque province, le gouverneur est là pour le représenter en attendant qu'il arrive. Par exemple, pour Fayoulou, au niveau de Beni, c'est le RCD-KML qui a lancé la campagne, la caravane, la matinée politique, annonçant aussi le soutien à Martin Fayoulou. Et l'UDPS, on attend encore, parce que vous savez, l'accord a été signé il n'y a pas longtemps. Disons que sur le papier, tous ces candidats viendront. Le Grand Nord Kivu, donc Beni Lubero, c'est presque le 1/10 des électeurs. Je pense qu'ils viendront, mais jusque-là, on n'a pas encore donné de date fixe.
Est-ce que vous pensez qu'avec les rebelles ADF et la présence d'Ebola, les élections vont pouvoir se tenir normalement?
Oh, je ne peux pas être prophète de malheur. Nous allons observer, nous tous, jusqu'à quel niveau on peut organiser les élections. Par exemple, pour la ville et les territoires de Beni, notamment pour la ville de Beni, il y a pratiquement 30% de la population qui s'est déplacée, qui s'est délocalisée, soit pour Goma, soit pour l'Ouganda, soit pour Kinshasa. Il faudra attendre. Je ne voudrais pas être le prophète de malheur.
Notre confrère Nikèze Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Congo-Brazzaville, reprise ce matin des activités à l'université Marienne Ngouabi, fermée depuis 3 mois. Le personnel qui réclamait essentiellement le paiement de 6 mois de salaire va se contenter du versement d'un mois en attendant de poursuivre les négociations avec le gouvernement. Le point avec notre correspondant Arsène Séverin.
C'est au terme d'une assemblée générale qui a duré toute l'après-midi de jeudi que la décision de reprendre les activités à l'université Marie Ngouabi a été prise. Plusieurs avis divergents sur la levée ou non de cette grève ont finalement débouché sur la reprise du travail dès aujourd'hui vendredi. Dans une déclaration, les syndicalistes appellent tous les travailleurs de l'université à reprendre les cours, à la suite de quelques points satisfaisants obtenus lors des discussions avec le gouvernement.
Paiement immédiat du salaire du mois de juin 2018. Paiement des heures diverses dues au titre de l'année académique 2016-2017. Versement de la subvention de fonctionnement. Poursuite des négociations avec le ministre de tutelle en vue du règlement des mois de salaire impayés et des heures diverses dues. Paiement régulier des salaires au même rythme que les agents de la fonction publique. Demande à l'ensemble des travailleurs de l'université Marien-Gouabi de rester serein et vigilant, se réserve le droit de déclencher à tout moment une autre grève si la partie gouvernementale ne respecte pas ses engagements. Fait à Brazzaville le 29 novembre 2018, l'Assemblée des syndicalistes.
La levée de la grève a été précédée par d'intenses négociations directes avec le Premier ministre Clément Mouamba. Les syndicalistes avaient exigé que le ministre de l'Enseignement supérieur ne participe pas à cette rencontre, estimant que ce dernier n'avait jamais souhaité dialoguer avec les universitaires en grève. Pour Gabriel Bissanga, responsable syndical à Marien-Gouabi, le tout se joue maintenant au niveau des engagements pris par les autorités.
On souligne un point important. On se réserve le droit de déclencher une grève si la partie gouvernementale ne respecte pas ses engagements. Nous restons attachés au respect des engagements qu'ils ont pris. L'année passée, nous avons suspendu la grève par patriotisme. Maintenant, nous avons eu des engagements de la part du gouvernement. Nous espérons que le gouvernement tiendra parole.
Déclenchée le 6 septembre dernier, cette grève a paralysé toute l'université Marien-Gouabi alors que les nouveaux bacheliers 2018 attendent toujours d'être inscrits. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En Afrique, le fléau des faux médicaments coûte la vie à des dizaines de milliers de personnes chaque année. Un rapport rendu public récemment appelle à de meilleures méthodes de suivi et de renforcement des lois afin de réduire le nombre de décès dus aux médicaments contrefaits en Afrique de l'Ouest notamment. John Lyndon nous en dit plus.
Des vendeurs ambulants qui sillonnent les rues, un phénomène habituel dans plusieurs villes africaines. Celui-ci traîne une valise pleine de médicaments, ou plutôt de faux médicaments. Et si ces médicaments ont le vent en poupe, c'est grâce à leur coût peu élevé. Moustapha Dieng, un client.
Je suis allé à l'hôpital, j'avais mal au ventre. On m'a fait une ordonnance, je suis allé à la pharmacie. Donc la pharmacie, j'ai trouvé que l'ordonnance, l'argent qu'ils m'avaient dit, c'est trop cher.
Dans la plupart des cas, les médicaments vendus sont contrefaits et ne peuvent donc empirer la situation du malade. Selon un rapport financé par l'Union européenne, près de la moitié des médicaments contrefaits ou de qualité médiocre signalés à l'Organisation mondiale de la santé entre 2013 et 2017 se trouvaient en Afrique subsaharienne. Des médicaments principalement fabriqués en Chine, en Inde, au Royaume-Uni et dans bien d'autres pays, comme le souligne Robert Congo, vendeur des médicaments de rue burkinabé.
Quand on vend, ça vient partout. Il y a produits chez nous ici au Burkina, ici. Il y a Nigeria, il y a Lagos, il y a Ghana, bon, il y a partout.
Chaque année, des médicaments antipaludiques de qualité inférieure ou faux causent la mort de 64 à 158 000 personnes. En Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé le mois dernier avoir saisi près de 400 tonnes de faux médicaments au cours des deux dernières années. Pour sensibiliser le public sur les dangers des faux médicaments, des campagnes ont été lancées. Le docteur Aimé Oumar Troué, membre du Comité national de lutte contre le trafic de faux médicaments.
Il faut dire que, apparu en 1980, le fléau des médicaments de la rue a pris beaucoup d'ampleur dans notre pays. Un médicament sur trois se trouve dans le secteur illicite. Donc on a 30% de la part du marché qui appartient aux médicaments de la rue.
L'Afrique importe 70% de ses produits pharmaceutiques et le commerce des faux médicaments a généré près de 30 milliards de dollars en 2017.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Il faut plus de 450 ans pour que les sacs en plastique se décomposent. En attendant, ils polluent rivières et mers, bouchent les caniveaux et les égouts, tuent les animaux qui les ingèrent et intoxiquent les humains. C'est pour cette raison qu'Achille Noussia a conçu des sacs totalement écologiques à partir de matériaux recyclés. Le produit baptisé Civic Bag est un sac à usage multiple qui a l'ambition de responsabiliser les citoyens concernant la protection de l'environnement. Rendons-nous à Lomé avec Olivia Gakima pour le rencontrer.
L'initiative Civic Bag a été lancée en 2016 par Achille Noussia avec pour objectif de trouver une alternative pour les sacs en plastique, étant donné que le gouvernement avait banni la production et la commercialisation de ces sacs. Il a commencé à produire des sacs en papier en recyclant des sacs de ciment.
Je dirais que nous sommes partis d'un constat. Le constat, c'est la surabondance des sachets plastiques dans notre environnement. Ces sachets, une fois dans notre environnement, vous savez tout le mal que cela cause et tout le temps que ces sachets passent dans l'environnement avant de disparaître. Donc nous nous sommes dit, en tant que citoyens actifs, il faut qu'on arrive à trouver une solution à cela. Je rappelle en passant qu'au Togo, en 2011, les autorités ont pris un décret qui interdisait la production et la commercialisation de ces sachets-là. Mais il n'y avait pas tellement d'alternatives pour amener le citoyen à cesser de les utiliser.
Les sacs Civic Bag ont été un succès parce qu'ils ont comblé un vide qui avait été laissé par l'interdiction des sacs en plastique. Désormais, les citoyens ont une option viable.
Nous, on encourage vraiment l'initiative parce que ce sont des sacs très pratiques, confortables. Nous, on les utilise tout le temps pour nos livraisons, puisque nous livrons des repas, nous vendons des trucs. Donc, on les utilise. Et aussi, je pense que c'est une bonne idée dans le sens que ça permet d'éviter la pollution et ça remplace les sachets noirs, en fait.
La demande pour les sacs Civic Bag est tellement abondante que la société en produit plusieurs centaines par jour pour satisfaire ses clients.
L'impact, je dirais d'abord...
L'impact, je dirais d'abord globalement, c'est positif. Parce que pour le Togolais lambda, il y a beaucoup qui n'ont jamais imaginé qu'on peut prendre le papier ciment et en faire un sac. Pour eux, le papier ciment, ça s'utilise en coupon, soit comme papier toilette, soit pour emballer des beignets, des brochettes et des arachides. Nous sommes parvenus à le transformer en sac, qui plus est individuel. Ça les a d'abord émerveillés. Et ils ont trouvé qu'au-delà des sachets, il y a la possibilité d'utiliser des sacs en papier qui répondent parfaitement à nos besoins quotidiens.
L'initiative a remporté plusieurs prix, notamment le prix PP Togo en 2017, le premier prix du concours de start-up organisé dans le cadre du Forum international pour le développement FIDEA 2017. Achille Noussia a aussi été reconnu comme jeune entrepreneur influent de l'année 2017, ayant décroché le deuxième prix dans cette catégorie.
Afrique, votre santé, votre avenir.
Un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé? Vous voulez prévenir vos maladies? Les soigner à temps?
Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays?
Suivez votre santé, votre avenir sur VE Afrique avec Rosine Mounezero
et Mohamedou Oumpa, samedi à 8h30, temps universel.
Votre santé, c'est votre avenir.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anna Bisonon. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.